2000 ans pour un après-midi classique exceptionnel. Programme complet sur vibiscumfestival.ch. Billets disponibles sur Ticket Corner ou Ticketmaster.
Suzuki, compact, hybride, 4x4. Notre assortiment de printemps à découvrir dès maintenant chez votre concessionnaire Suzuki qui vous donne l'heure.
Bonne matinée sur Radio FR avec Kaigo et Avamax. Après la météo, 10h.
La météo avec Publibike. Plus de 50 stations et 450 vélos et e-bikes à votre disposition dans la région fribourgeoise. Publibike.ch.
Un temps changeant aujourd'hui, quelques averses isolées possibles, les brèves éclaircies, 8 degrés et une bise soutenue sur le plateau. Demain, mercredi, temps de traîne avec des éclaircies et de la pluie parfois encore possible. Limite de pluie-neige vers 700 mètres, minimum 1, max 9 degrés pour demain.
Radio Fribourg.
Disponible en numérique dans toute la Suisse romande en DAB+.
Radio Fribourg. There's a space in my heart when it all comes crashing down. Anytime I hear your name out in public, there's a place that I go every time that you're in town. It's just me in my nights, in my stomach. And it's true, it wasn't easy getting over you, but that's just what I had to do. Whatever, whatever, we were never good together.
Yeah.
Le Fribourg Olympique a une nouvelle occasion de se qualifier pour la finale des play-offs. Une victoire à Genève, c'est tout ce dont les joueurs de Thibaut Petit ont besoin pour remporter la série. Genève Olympique, acte 4 de la demi-finale, c'est un match à suivre en direct sur Radio FR mardi dès 19h30.
Rêver un peu, beaucoup, passionnément, sans limite. Ce mardi, à l'Euromillion, jackpot de 129 millions à gagner. Jouer en ligne ou en point de vente. Euromillion, un jeu de la loterie romande.
Radio Fribourg.
À l'ombre du baobab.
Thierry est là en direct. Émission jusqu'à 11h.
Oui, avec son jusqu'à invité,
11h. Ils sont là, ils s'installent.
Ils sont en train de regarder s'il il est bien de mettre le casque ou pas. Alors François, oui, François, tu peux mettre le casque. Oui, il y a un petit bouton de volume juste sous la table. Voilà, il faut enlever le chapeau parce qu'il a un chapeau, François Couplan. C'est notre invité aujourd'hui. Tu vois le petit bouton de volume? Non, alors si jamais Grégoire viendra vers toi tout à l'heure. C'est bon? C'est parfait. Tu m'entends? Tu m'entends?
Moi, je t'entends. Est-ce que toi, tu m'entends?
Oui, je t'entends. C'est parfait. Keiko est avec nous également. Bonjour, Keiko. Bonjour, Keiko. Ah, voilà, on va lui ouvrir le micro. Keiko. Bonjour, Keiko. On le refait. Hop. Non, c'est tout bon. C'est bon. Voilà.
D'accord.
On vous entendait pas tout à l'heure, effectivement.
On est en famille.
Keiko, la compagne de François Couplan, en famille, effectivement. On va parler des plantes aujourd'hui, de ces liens qui libèrent.
Ah, les liens qui libèrent.
Ah, bah oui, c'est François Couplan, ethnobotaniste. On se voit quelquefois, on s'est vu il y a déjà quelques temps, me semble-t-il, pour faire l'émission.
On se voit régulièrement.
À la sortie du 122e ouvrage, je crois. Non, je rigole parce que j'ai vu que tu avais écrit 123 livres.
C'est publié, en tout
publié,
cas.
Publié,
c'est
publié.
Exact, oui.
C'est
exact.
C'est énorme.
Bah, écoute, depuis 1983, ça fait à peu près 3 par an.
Ouais. Bah, alors c'est une bonne moyenne. Je cherche toujours à écrire le premier.
Ah oui.
Non. Peut-être, qui sait. Mais c'est vrai que ça c'est quelque chose aussi qu'on a en soi, hein, cette capacité d'écrire, transmettre.
Je peux expliquer la chose en fait. C'est basé sur un égoïsme profond, à savoir que je commence par écrire pour moi, parce que écrire ça me permet d'abord de poser les choses qui sont dans ma tête, de mieux réfléchir, et puis de formuler mes notes de façon à ce que moi, au moins, je le comprenne pour pouvoir le transmettre ensuite. Et ça marche vachement bien.
C'est toute une démarche.
C'est toute une démarche, effectivement, mais que je trouve très efficace, quoi. Donc, j'ai pas fini encore.
Oui, parce que 123 ouvrages ont été édités à ce jour. Ça sous-entend.
Ben le prochain est déjà en route.
Il est déjà en route. Ouais.
Et ça te plaira, je crois.
Oui. Alors, différents types d'ouvrages. Le dernier, en date qui vient de sortir, Les Liens qui Libèrent, c'est l'édition ou la maison d'édition.
La maison d'édition.
Absolument, l'album. Oui, on pourrait parler d'album parce que tu es un musicien aussi. Enfin, tu es quelqu'un qui apprécie la musique. Que François, le livre en question s'appelle L'art de la cueillette, les bienfaits nutritionnels des plantes sauvages.
Voilà.
C'est un combat. C'est l'histoire aussi un petit peu de ta vie, François. Ça fait énormément de temps que tu t'intéresses. Non, mais je dis énormément.
Oui, c'est 74 ans.
C'est 74 ans, non.
C'est pas tant que ça.
Non, mais tu.
J'ai 74 ans, et dans 26 ans, je serai centenaire. Mais j'ai commencé.
On se réjouit. Oui, j'espère qu'on sera là aussi, je serai là aussi pour faire une émission. Mais... Greg aussi. Hein. On fera une émission pour les 100 ans de François Couplan.
Ah, cool.
Dans 26 ans. 26 ans.
Dans 26 ans.
Oui, ça nous laisse encore un petit peu de temps pour la préparer.
Mais ça va vite. Hein.
Ouais. Mais c'est vrai que depuis qu'on se connaît, finalement, c'est toujours à travers les plantes aussi qu'on a fait d'une part connaissance aussi. Et puis ces plantes, alors qu'ils nous nourrissent à la foi, mais qui nous réunissent aussi et qui nous permettent finalement de se rencontrer, François.
Pour moi, les plantes, c'est un peu une obsession. Mmh. C'est une obsession de partage, c'est une obsession de lien. C'est pour ça que d'ailleurs que cette maison d'édition Lien qui libère, ça me convient bien. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de me relier. Pour moi, la vie, c'est le partage. Pour moi, la vie, c'est le fait de me sentir bien avec d'autres êtres. Et j'ai eu la chance, depuis que je suis petit, de pouvoir le faire avec d'autres êtres vivants que l'être humain. Mmh. En l'occurrence, les végétaux.
Ben oui.
Tous ces trucs verts qui poussent autour de nous spontanément et qui faisaient partie de mon environnement naturel depuis ma plus tendre enfance sur les pavés parisiens. Non, mais à Paris, il y a beaucoup de plantes. D'ailleurs, j'y étais récemment et depuis qu'on met plus d'herbicides. Mais c'est formidable, c'est extraordinaire. Les plantes en ville, c'est la vie, la liberté. Vraiment, on viendra, je pense, sur ce thème de liberté, parce que pour moi, c'est essentiel, ça, voilà. Les plantes le manifestent vraiment. Et donc, voilà, depuis tout ce temps-là, j'explore différentes façons de me relier avec ces êtres vivants, je reviens dessus, d'une part, et de partager, de transmettre, de donner les moyens aux uns et aux autres de développer leur propre relation avec les plantes, pour, je dirais, ce que j'aimerais transmettre, c'est leur permettre de mieux se connaître en tant que personne, en tant qu'individu physique, psychique, spirituel, et de mieux comprendre le monde dans lequel on vit, parce que c'est vraiment important. Ça, je sais depuis que j'ai 12 ans que le monde dans lequel on vit, il est moyen, quoi. Il y a des trucs qui vont pas exactement, puis j'ai mis le doigt dessus, la religion peut-être, les choses, surtout les non-dits, les dogmes, plein de choses qui me gênaient, qui je trouvais que ça coinçait vraiment aux entournures. Donc, à 20 ans, je suis parti vivre dans les bois, au fond des bois. Je me suis libéré, je peux dire, de ça.
Oui, mais tu es parti vivre dans les bois aux États-Unis.
Aux États-Unis, précisément.
Pendant une dizaine d'années, à peu près.
Ouais, je l'ai fait un petit peu en Corse, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Puis après, là, je me suis éclaté au fond des bois ouest-américains en particulier. Parce qu'il y a de l'espace, quoi. Il y a de l'espace, il y a des ours, il y a des plantes. Il y a plein de plantes différentes. Il y avait toute la tradition des Indiens aussi d'Amérique qui vivaient en contact et en relation, je reviens sur ce terme, avec les plantes. Et j'ai beaucoup appris de cette période, mais j'ai eu envie, encore une fois, de partager avec d'autres êtres humains, parce que je suis humain
également. Ouais.
Et de transmettre, parce qu'on me l'a demandé au départ, en fait. Hein, et puis c'est devenu, ça fait plaisir à l'ego, ça c'est certain, hein, quand on me dit « Ah, c'est chouette et tout, c'est gentil ». Non, mais puis j'ai l'impression de faire quelque chose d'utile, je veux dire, donner un sens à sa vie, enfin, avoir l'impression du moins que sa vie a un sens, c'est quand même vachement important, et je le souhaite à tout le monde.
Ouais, alors 10 ans aux États-Unis, ce qui est assez marrant, finalement, tu parlais de Paris tout à l'heure, hein, à la base, tu es plutôt un citadin, plutôt parisien, on va dire.
Je voulais être, à 8 ans, je voulais être conducteur de métro, et j'ai raté ma vocation.
Alors, c'est pas tout à fait la même chose.
Non, mais on passait beaucoup de temps dans les Alpes, en Savoie, et c'est là que...
Il y avait déjà cette relation avec la nature, quand
immédiate,
même.
Immédiate, depuis tout petit. Ouais, clair, ouais.
Et puis après, il y a eu des voyages, 10 ans aux États-Unis, en forêt aussi. Hein. Donc là, c'est vraiment une forme de vie qui sort un petit peu de nos normes habituelles, j'imagine.
Ouais, on peut dire ça. Mais pourtant, je pense que tout le monde peut le faire et je dirais tout le monde devrait le faire. Pas forcément 10 ans, tu vois. Mais quand je donne mes survies douces, par exemple, où j'emmène les gens dans la nature, ça dure une semaine. Tout le monde est capable de le faire. Mmh. Et la plupart du temps, les gens reviennent changer, transformer, quoi. C'est vrai.
Ouais, et quand on parle de vie, vivre en forêt, ça sous-entend se nourrir aussi avec l'on cueille, ce que l'on trouve au quotidien.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Pas forcément exclusivement. Moi, de toute façon, au quotidien, ce que je vis, moi, c'est un équilibre entre les légumes que j'achète marché ou supermarché, chez les producteurs ou comme ça, à des gens qui, j'espère, aiment ce qu'ils font et aiment cultiver. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop de travail. Je veux dire, les chasseurs-cueilleurs, ils travaillaient 3 heures par jour. Les agriculteurs, il leur en faut au moins 10. Donc, je me sens beaucoup plus du côté de la paresse, quoi.
Du temps libre.
Beaucoup plus.
Avec cet aspect un peu plus méditatif, contemplatif aussi, parfois.
Absolument. Absolument. Il faut bien savoir que le développement de l'agriculture a été une malédiction pour l'être humain, puisqu'il s'est mis à devoir travailler vraiment, non mais c'est vrai, à travailler beaucoup plus, à, comment dire, et une grande partie de l'humanité a vécu en esclavage à travers les âges. C'était pas bon sur le plan nutritionnel, et c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin, Les bienfaits nutritionnels des plantes sauvages. C'est parce que je suis persuadé que ces plantes sauvages peuvent nous rendre un grand service sur le plan de notre santé, sur le plan de l'alimentation. Pas forcément pour les besoins de base que sont les protides, glucides, lipides, des choses comme ça, mais en tout cas pour tout ce qui est micronutriments. Mmh. Tous les micronutriments proviennent à la base de notre alimentation, bon, sauvage au départ de toute façon, et peuvent toujours l'être à l'heure actuelle parce qu'on en manque. L'OMS dit qu'on est en carence en fer, ouais, en carence en vitamine C. Je vais revenir là-dessus parce que là, je vais faire une démonstration.
Ah bon ?
Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais magnésium également, antioxydants et choses comme ça, ce sont des choses qui généralement nous manquent. Donc la façon, comment je peux dire, logique, normale dans notre société de consommation, de procéder, c'est d'utiliser des compléments alimentaires,
ouais, on est d'accord. Exactement.
Mais nous, on a autour de nous, à notre disposition, tous les compléments alimentaires que l'on veut, dont on a besoin, qui sont gratuits, qui sont bons quand on sait les choisir, qui sont pas toxiques quand on sait les choisir aussi, il y a quand même un certain apprentissage.
Qui sont bons quand on sait les cuisiner aussi.
Ça rend service.
C'est Keiko, ouais, entre autres.
Ça rend service. Bah oui, Keiko peut nous dire comment elle cuisine les plantes sauvages.
Ah ben là, je pense qu'on en aurait pour un moment, hein, Keiko. Ouais. On peut faire plein de choses avec les plantes sauvages en termes de recettes. Hein.
Oui. Ça c'est clair, oui. Mais le plus simple, oui, qu'on fait assez facilement les plantes crues, ça c'est le pesto.
Oui, bien sûr.
Oui. Maintenant, c'est vraiment la saison, parce que je ne peux c'est bien de manger en cru, ça c'est vraiment bon.
Mm-hmm. Mon dentiste qui m'a arraché une dent hier, pour se faire pardonner, il nous a donné un petit pot de pesto qu'il avait fait le matin. Oui, il est branché, plantes sauvages. Il y a des gens très bien qui
arrachent les dents.
Qui arrachent les dents et qui, à côté de ça, vont cueillir les plantes pour faire du pesto, c'est bien. Mais les Japonais utilisent beaucoup les plantes sauvages.
Keiko est en japonais.
Oui, c'est ça, oui.
L'accent n'est pas saint-ginois, il est japonais.
C'est plus loin, oui, quand même.
Exact. Ah ben là aussi, je pense qu'il y a beaucoup de choses au Japon, entre autres, en termes de plantes aussi et de nature.
Mais, et justement, une autre culture que la nôtre, une autre tradition d'utilisation des plantes sauvages, qui fait que chez eux, chez les Nippons, chez les Japonais, c'est tout à fait normal de ramasser, de consommer des plantes sauvages. Et je pense que ça lié à leur, pas leur mode de vie en général, qui est aussi fou que le nôtre, mais à leur mode d'alimentation, qui est quand même beaucoup plus sain que le nôtre, fait que les gens sont globalement en nettement meilleure santé.
Mmh. Et c'est vrai, on voit au Japon, la nourriture aussi est différente, effectivement.
Différente et nettement plus équilibrée, plus large dans le spectre des aliments qui sont proposés. Et c'est bien.
C'est bien.
On peut dire ça aussi.
On peut dire ça comme ça, c'est bien.
Mais c'est bien, mais au-delà de ça, on peut s'en inspirer, quoi. Mm-hmm. On peut s'en inspirer, pas forcément.
S'en rapprocher, hein, parce que finalement, les plantes sauvages avec lesquelles tu travailles depuis des années et des années, c'est aussi une façon de se rapprocher, de rapprocher les civilisations, de se rapprocher culturellement, de mieux se comprendre aussi.
Moi, j'ai énormément appris en allant de pays en pays, voir ce qui m'intéressait, c'était de rencontrer des gens, c'est vrai, mais de rencontrer des plantes aussi, et puis de voir comment les gens se comportent vis-à-vis des plantes dans les différentes cultures. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'on est tous des êtres humains pareils, c'est intéressant, mais on peut vivre nos rapports avec le monde de façon différente, et à mon avis, de façon plus équilibrée, plus libre, je dirais, que ce que nous faisons, nous, ici, en Occident, d'une façon générale. On a quand même des gros handicaps, je trouve. Non, mais c'est vrai.
On le voit, effectivement. À travers les plantes, et à travers les plantes sauvages, hein, particulièrement, parce que c'est de ça dont on parle avant tout, on trouve des richesses qui nous nourrissent au-delà, entre guillemets, du principe nutritionnel.
C'est, oui, Oui, on peut s'attarder un petit peu sur le principe nutritionnel lui-même, en soi.
Alors, ce livre décrit bien les choses. Hein. L'art de la cueillette, on y retrouve... Alors, c'est un gros livre, un beau livre. On y retrouve énormément de plantes avec lesquelles, justement, on peut faire connaissance, d'une part.
Oui, oui.
Et puis voir dans quelle mesure ces plantes peuvent nous apporter aussi, justement, à la fois des compléments, mais surtout nous entretenir, on va dire.
Alors... D'abord, je parle globalement, principalement des plantes de nos régions, parce que ce qui m'intéresse, c'est que le message passe aux personnes qui lisent le livre ici et qui...
Avant qu'il ne soit traduit en japonais, en anglais, en allemand, en espagnol,
difficile
etc.
de faire traduire les livres en anglais, hein, c'est difficile. Hein.
C'est vrai.
Ah ouais, ouais.
C'est
ouais,
encore
ouais.
autre
Francophone,
chose.
Francophone, c'est ouais, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a des moyens, il y a des moyens autres que les livres d'ailleurs. Mais Je voulais revenir sur cet exemple de la vitamine C, quand même, parce qu'il faut y réfléchir. Et là, charmante personne qui nous écoutait, je vous demande votre attention.
Oui. Voilà.
La vitamine C.
Greg aussi. Hein.
Tout le monde est attentif. Tout le monde. Votre voilà. attention. La vitamine C. Quelle est la caractéristique de la vitamine C? La caractéristique de la vitamine C. Les caractéristiques, il y en a deux. C'est d'être indispensable... Et c'est de ne pas être fabriqué par l'organisme ni stocké. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça fait 61 millions d'années que ça dure, cette histoire. Ça veut dire que l'alimentation de nos ancêtres primates et de nous-mêmes, dont nous descendons, fournissait tellement de vitamine C, suffisamment de vitamine C à l'organisme humain, qu'il a... On va pas personnaliser la chose, anthropomorphiser la chose, mais que l'évolution a décidé que c'était un avantage de ne pas fabriquer de vitamine C. Parce que chaque fois que dans l'évolution quelque chose n'est pas vraiment utile, bah, si on peut faire autrement, on le fait plus. Donc, nous, il y a 12 000 ans, on avait une alimentation qui était exclusivement à base de notre cueillette et de notre chasse, enfin en tout cas exclusivement sauvage, hors agriculture.
Les chasseurs-cueilleurs.
Les chasseurs-cueilleurs. Et ces chasseurs-cueilleurs avaient toute la vitamine C dont ils avaient besoin, parce qu'elle était fournie directement par leur alimentation. Et c'était très bien. Sauf que quand on s'est mis à cultiver, eh bien, on a sélectionné des plantes qui était plus grosse, plus belle, plus riche en glucides, plus savoureuse peut-être, au goût moins amer, etc. Moins riche en tanins peut-être, on reviendra sur ces polyphénols par exemple, qui sont des antioxydants absolument nécessaires, on s'en rend compte maintenant. Toujours est-il que notre alimentation s'est appauvrie, ça se voit déjà d'ailleurs sur les squelettes de nos ancêtres néolithiques, qui étaient plus petits en taille, qui avaient des différentes maladies que n'avaient pas les chasseurs-cueilleurs. Et donc, entre autres, cette histoire de vitamine C, dont la carence provoque, on le sait, le scorbut. Et le scorbut, on en a maintenant en Occident de nouveau. En Suisse, il y a du scorbut de nouveau. C'est quand même fou.
Ouais.
Manque de vitamine C. Pourquoi ? Ben simplement parce que notre alimentation s'est tellement modifiée, et nos comportements alimentaires, on va dire pas seulement notre alimentation, mais la façon dont nous nourrissons, qu'il est possible, dans nos pays, d'avoir des carences en vitamine C, alors qu'il y en a partout. Il suffit de manger la moindre feuille de pissenlit, la moindre pousse d'ortie, le moindre cynorhodon, qui en est donc les gratacules, voilà, tout le monde connaît, qui en sont mais tellement riche, beaucoup plus riche que les agrumes, c'est beaucoup plus riche qu'un jus d'orange de prendre une cuillerée de confiture de cynorhodon ou de faire un pesto d'ortie, par exemple, comme disait Keiko. Donc c'est tellement simple, et c'est tellement logique tout ça, que je reste étonné, même énervé d'ailleurs. Non, mais c'est vrai, ça m'énerve de voir à quel point les évidences ne sont pas perçues par nos contemporains, que je persiste à ne pas croire bête.
C'est bien
peut-être
ça.
Tort, hein.
Oui, ça veut dire que, mais ça veut dire qu'il reste de l'espoir, quoi qu'il en soit.
J'ai François, beaucoup d'espoir, oui.
François Couplan, juste puisqu'on parlait alors de cuisine, de plantes sauvages, etc. Juste quand même un petit clin d'œil aussi aux cuisiniers que tu as accompagnés aussi, parce que c'est vrai que bah, le plus célèbre c'est Marc Vérin, entre autres, avec lequel tu as passé un certain temps. Lui aussi.
Un temps certain, même.
Un temps certain. Oui,
ah ouais, absolument.
Ouais. Lui s'est beaucoup intéressé. Alors justement aussi aux plantes sauvages, mais à les intégrer dans ses menus gastronomiques, etc.
Et à 500
balles. Oui, à 500 balles. Ça a été aussi toute une partie du travail que tu as accompli avec ces différents cuisiniers. Je me souviens de la pâte des Moissettes, etc.
Bien sûr.
Donc
bien
c'est vrai
sûr,
qu'il y a toujours eu cet attrait à la fois pour les plantes sauvages, mais aussi la capacité pour les cuisiniers d'en faire quelque chose, de sublimer aussi ces plantes sauvages, de les remettre au goût du jour et finalement d'apporter dans l'assiette des compléments alimentaires extraordinaires.
Oui, alors, faut dire une
chose. J'ai dit que des bêtises ou bien ?
Non, t'as pas dit que des bêtises.
Ah bon ?
Non, quand même, Thierry. Mais il faut dire une chose, c'est que je suis très gourmand, personnellement, et que les saveurs me passionnent, et que donc pour moi, le fait de travailler avec des cuisiniers, ça a été, découvrir des façons de développer de nouvelles saveurs que moi, je connaissais à l'état brut, je dirais. Et c'est quand même vachement sympa de faire des trucs super farfelus, parfois c'est farfelu, mais enfin vraiment qui...
Créatif en tout cas.
Créatif, exactement, c'est un petit peu comme...
Et novateur.
Novateur, oui, c'est vrai, oui. En fait, puisque dans le fond, jusqu'à présent, c'est vrai qu'on consommait les plantes sauvages d'une façon plutôt directe. Pas très complexe. Et que la culture, moi j'ai rien contre la culture, j'adore la culture, effectivement, sauf que la culture, elle peut, encore une fois, j'ai parlé des diktats de notre culture, elle peut nous enfermer. Et j'ai pas envie de me laisser enfermer par quoi que ce soit, ni par moi-même d'ailleurs. Et donc, il faut pas en rester prisonnier. Et je vais dire un truc, je vais le dire très franchement, je trouve que maintenant, c'est souvent devenu une mode, et qu'il y a beaucoup de gens, restaurateurs y compris, qui se sont enfermés dans ces modes. Et que les plantes, c'est plus pour la déco, c'est plus pour dire « je travaille des plantes sauvages », c'est plus pour dire « ah, moi, j'ai pas un chapeau comme Mac Vera, mais je fais comme lui, et j'ai peut-être une ou deux étoiles, je ne sais pas ». Mais toujours est-il que, bien souvent, je dirais, allez, je vais être franc et honnête, ça manque de sincérité.
Ouais.
Ça manque de sincérité parce que les plantes, quand je travaillais avec Marc, il a mis des années pour mettre ça au point. Et les plantes, il allait les voir tous les jours, il les connaissait, il les appelait par leur petit nom et tout ça. C'est le cas de certains cuisiniers, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, si je puis dire. Mais en tout cas, ça arrive. Et il faut mettre un petit peu... Comment dire, faire du tri là-dedans, moi je trouve. Et peut-être quelque part, c'est un petit peu mon rôle. Je veux dire, sur Internet fleurissent les sites qui proposent des sorties plantes sauvages, qui proposent de connaître, d'apprendre à connaître les plantes. Et quand on analyse, bah, y a, si j'ose me permettre, à boire et à manger. Quoi.
Beaucoup de marketing aussi. Hein.
Il y a beaucoup de marketing dans certains cas. Voilà. On peut faire du bon marketing aussi. Hein. Voilà, je pense que tout peut être utilisé à bon escient. Mais parfois, il y a des gens qui sont mais sans doute très sincères, mais qui n'ont pas assez de connaissances et qui ne sont pas assez précis. Or, quand on veut utiliser les plantes, vraiment, c'est indispensable d'être précis. Parce que il peut y avoir des plantes toxiques.
Bien sûr.
D'accord. Mais il peut y avoir également, comment je peux dire, des risques. Comment je peux dire ça ? À ne pas encourir, je pense par exemple à l'échinococcose, la maladie du pipi de renard. Ce truc-là, il faut bien comprendre ce que c'est pour ne pas avoir de problème. Et la plupart du temps, c'est quelque chose de très vague, c'est quelque chose de très flou. Beaucoup de gens pensent c'est une plante est comestible ou elle est toxique. Mais c'est totalement faux. C'est une gradation entre une plante qu'on peut consommer en grande quantité sans avoir de problème, une plante dont si on grignote juste une feuille, on se sentira tellement mal que lui ne tirait pas loin. Mais c'est vrai, c'est vrai.
Absolument.
Il y a
la préparation, il y a aussi la façon qu'on a d'interagir aussi avec certaines plantes.
La première des choses quand même, c'est de bien comprendre, d'avoir des bases, de savoir ce qu'on fait, de ne pas se lancer n'importe comment, de de pas avoir de préjugés. Et, comment dire, on a vécu avec les plantes depuis qu'on existe sur Terre et même avant qu'on soit humain, mais il y avait une transmission, il y avait une connaissance. Voilà. Maintenant, il y a eu une coupure pour des raisons socio-historiques, parce que pendant longtemps, ce n'était pas un bon plan de manger des plantes sauvages. Il fallait se cantonner à la viande, au maximum, et dans le végétal, à ce qui était cultivé, donc transformé par l'être humain. Vous voyez, ça, c'était important, cette chose-là. Et tous les gens qui avaient recours à la nature brute, à ce qu'offrait la nature brute, c'était des pauvres, c'était des péquenauds, c'était des moins que rien, c'était des gens qui n'avaient rien compris au film ou qui n'avaient pas de chance, je ne sais pas. Mais toujours est-il que là, on est dans un processus où on transforme vraiment l'image des plantes vis-à-vis de la société, enfin l'image que la société a vis-à-vis des plantes. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort. D'ailleurs, je vous le glisse, je ne sais pas si je peux le dire, mon prochain bouquin, ça s'appellera « La cueillette est un acte politique ».
Ah bon ?
Mais ouais, non, mais voilà. Parce que au-delà du simple...
Après ça, l'art de la cueillette est un art politique.
Ouais, mais absolument. Parce que ça ne concerne pas... Là, on est avant tout dans le rapport de l'individu avec les plantes. Manger des plantes sauvages, ça fait du bien à l'individu, c'est sûr, je le montre, je le démontre, enfin, il faut en faire ensuite l'expérience soi-même, bien sûr, pour le savoir. Mais je pense que la cueillette a véritablement un impact très important sur la société. Et que plus il y aura de personnes qui auront développé justement cette relation avec autre chose, d'autres êtres que strictement l'humain, ils pourront prendre beaucoup de recul par rapport à... comment je peux dire, aux problèmes que génère obligatoirement notre société, à commencer par des problèmes personnels qu'on ressent, des problèmes de manque de temps, des problèmes d'alimentation, des problèmes de santé.
De santé, donc.
Ouais. En particulier, oui, oui. Oui. Donc, voilà, il y aura des choses à dire.
On va se retrouver d'ici quelques instants pour continuer à dire des choses.
Retrouvez Le Mag, l'émission magazine et société de Radio Fribourg, demain entre 8h30 et 9h.
Avec les cafés scientifiques de l'Université de Fribourg, échanges et discussions, demain soir, 18h, au Nouveau Monde.
Un message fort à chaque trajet. Profitez maintenant chez Amag d'un leasing à 1,99% sur l'Audi Q5 Sportback. Toutes les infos sur amag.ch/audi. L'octroi d'un leasing est interdit s'il entraîne le surendettement du consommateur.
Radio FR présente les bonnes tables de la région.
Enfin, elles sont arrivées, les délicieuses spécialités aux asperges du restaurant pizzeria La Tomate à Matran. Pizza au feu de bois, cuisine italienne et mes printaniers vous mettront l'eau à la bouche. Le restaurant pizzeria La Tomate à Matran, un endroit calme et dans la nature, avec place de jeux pour enfants et grand parking gratuit.
Le restaurant Le Smash à Grange-Paco vous propose dès maintenant sa nouvelle carte printanière. Diverses spécialités d'asperges et morilles, risotto aux fruits de mer, crevettes et asperges, et bien sûr toujours ses spécialités de pâtes, viande, pizza et menu du jour. On se réjouit de vous accueillir à Grange-Paco au restaurant Le Smash. Grand parking gratuit.
À l'ombre du baobab, avec Thierry.
Nous sommes en compagnie aujourd'hui de François Couplan, ethnobotaniste, à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, L'art de la cueillette, les bienfaits nutritionnels des plantes sauvages. Kaiko, son épouse ou sa compagne, est avec nous aujourd'hui.
Ton épouse. Oui, alors c'est bien. Légitime et tout. Hein. Ah, on fait les choses en ordre.
Hein. Oui, des fois, je ferais mieux de poser des questions avant que pendant. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà. Tout va bien, hein, Kaiko.
Ça va comme bien.
Parfait. On va écouter un petit peu de musique. Alors, retour dans les années 70. Ça, c'était les années... 60 même.
68, oui.
Ah, 68, oui. Alors, ça, c'était les années un peu hippie, comme ça, du côté des
très
États-Unis.
Très hippie, très les fonds, c'est très musique. Je vois. Jouais dans des groupes... Ça fait psychédélique, moi aussi.
D'accord. Ouais. Bon, et après, c'était avant ou après ou pendant que tu vivais dans les bois aux États-Unis?
C'était avant les bois. En fait, ce qu'il y a, c'est que le milieu musicien dans lequel je vivais n'était pas forcément très très sain. Ouais. Et que je me suis payé une bonne grosse nervous breakdown, comme on disait dans le texte. Et le médecin que j'ai eu, au lieu de me donner des pilules, il m'a envoyé à la campagne. C'était assez génial. Tu vois. Faire de la relaxation, il m'a envoyé à la campagne. Et du coup, je suis parti vivre dans les bois, quoi.
Quasiment 10 ans.
Ouais, quasiment.
Ça fait. Bon. Cream, dans les années, alors, 60, 68.
68, précisément.
Cream, Strange Brew. Avec Clapton, non?
Eric Clapton, ouais, Ginger Baker, Jack Bruce.
Ah oui.
Et c'est là où Clapton a été le meilleur dans toute sa carrière. À mon très humble avis.
Oui, alors si tu nous entends, Eric, bonjour. De la part de François aussi.
Ah,
ça fait
hein.
du bien, hein, François. François Couplan.
Merci,
non,
hein.
Eric Clapton, pardon.
Merci.
À la guitare.
Oui.
Tu jouais aussi de la guitare, François?
Oui.
D'accord, oui. Voilà.
J'en joue toujours un peu le soir, mais mon seul public, c'est Keiko.
Mais Keiko, c'est bien quand il joue.
Ah oui.
Bon, bah, alors c'est parfait. Tu peux continuer, François, à jouer.
Merci.
On était dans les années 60, hein, 68 avec 68, Cream. Ouais. Eric Clapton, entre autres, qui continue bien sûr aussi à jouer, mais dans un registre un petit peu différent. On pourrait aussi faire des émissions sur les musiciens sauvages que l'on va accueillir à gauche à droite, par exemple.
Ah, il y en a eu des musiciens sauvages.
Ouais, oui, c'est vrai. Il y en a toujours, hein, cela dit.
Ouais, je suis un petit peu moins la chose de.
On parle, nous, par contre, de plantes sauvages. L'art de la cueillette, les bienfaits nutritionnels des plantes sauvages aux éditions Les Liens qui libèrent de François Couplan. C'est l'ouvrage dont nous parlons aujourd'hui. Enfin, quand je dis, on ne parle pas forcément que de cet ouvrage, parce que cet ouvrage décrit, alors, toutes les plantes que l'on peut trouver, particulièrement hein, dans nos régions, les bienfaits.
Toutes les plantes.
Bah, pas toutes, hein.
Toutes les plantes.
Non, il y en a des milliers.
En Suisse, il y en a 3500.
Voilà, c'est ça, je voulais
dire. En France, il y en a 5000.
D'accord, mais enfin, un certain nombre de plantes.
Ouais,
en tout
modeste.
Cas. Oui, et puis des plantes, surtout, qui nous sont utiles et qui nous servent à tout point de vue. Oui,
et puis, dans ce livre, ce que j'ai mis en particulier, ce sont les plantes qui ont été. Enfin, dont j'ai réussi à trouver les analyses nutritionnelles. En différents éléments. Et ça se trouve pas, si j'ose dire, sous le sabot d'un cheval.
Ouais.
Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'analyses. J'avais trouvé ça chez Nestlé, une fois, dans la bibliothèque de Nestlé à Mont-sur-Lausanne.
Ah oui, j'avais une bibliothèque hallucinante, cela dit. Hein.
Pardon ?
Une grosse bibliothèque, enfin,
c'est gigantesque.
De savoir.
Et donc j'avais pu y avoir accès, et j'ai trouvé beaucoup d'analyses sur les plantes sauvages, plantes sauvages de nos régions ou d'ailleurs. Et voilà, j'en ai tiré énormément d'informations. Globalement, ce qu'il faut retenir, hein, c'est que les plantes sauvages sont infiniment plus riches que les plantes cultivées dans les différents nutriments, principalement dans les micronutriments qui nous sont absolument nécessaires, indispensables à notre équilibre, que ce soit des minéraux comme le fer, comme le calcium par exemple, que ce soit des vitamines,
des vitamines.
Alors, je reviens là-dessus. Et puis, protéines, oui. Alors, si un truc quand même vachement intéressant, c'est que dans les feuilles vertes des végétaux, on a affaire à des protéines qui sont équilibrées en acides aminés essentiels, c'est-à-dire qui ont exactement la même valeur nutritionnelle que les protéines animales. Jusqu'ici, on pensait toujours « les protéines végétales sont carencées en un acide aminé essentiel, donc elles ont moins de valeur, une valeur nutritive inférieure aux protéines animales ». Ça, c'est vrai uniquement si on regarde les céréales et les légumineuses qui sont stockées dans des organes de réserve. Mais les vitamines qui sont liées au tissu vivant, elles ont la même composition que les protéines végétales. C'est quand même fabuleux, ce truc. Mmh. C'est-à-dire que quand on mange, une soupe d'ortie ou un soufflé d'ortie, des trucs comme ça, le soufflé, il y a des œufs en plus, évidemment. Mais on a suffisamment de protéines, quoi. Protéines, c'est pas un problème. Glucides, même chose, on n'a pas de problème. On a trop de glucides, on mange beaucoup trop de glucides. On a une alimentation néolithique qui est basée sur les céréales et les légumineuses, sur les sucres, sur les amidons, hein, et sur les sucres rapides aussi, hein, les sucres sucrés. Ça, c'est pas un bon plan. De toute façon, ça, on en a trop. Mais si on en avait besoin, plutôt que de cultiver des champs de blé, on pourrait simplement laisser pousser nos forêts de chênes, originelles, climatiques, etc. Et récupérer, c'est facile de désherber. Pour nous, avec la technologie dont on dispose, ce serait extrêmement facile de désamériser les glands, éliminer les tanins et récupérer les glucides, tout simplement.
Eh oui.
Voilà. Alors, ce serait pas panifiable, mais on pourrait s'arranger, on pourrait faire des tas de choses. Non, mais c'est vrai. Et moi, personnellement, je préférerais de loin avoir des chauves-fleurs forêts de chêne. Je reprends. je m'excite un peu. D'avoir des forêts de chênes plutôt que d'avoir des champs de blé, quoi. Mmh. Je veux dire, c'est mignon, les moissons dorées qui ondulent au vent. Attends, mais je préfère une bonne forêt de chênes avec toute la flore, toute la faune.
Là, on rentre par contre alors, dans des discussions plus complexes en soi. Hein, parce que
bien sûr.
Bah oui, parce que les champs de blé servent aussi, bien évidemment, et puis nourrissent aussi des populations.
Oui, bien sûr, mais on pourrait très bien imaginer une autre façon de faire et d'avoir des personnes qui récoltent les glands des chênes, même à la machine, par exemple. Ça se fait d'ailleurs, ça se fait en Grèce.
Finalement, on évolue beaucoup sur le plan technologique dans cette société, donc ça veut dire qu'on transforme aussi un certain nombre de métiers liés à ces développements technologiques. Ça pourrait être la même chose au niveau de la nature, finalement.
Exactement. Mmh. Exactement.
Reconsidérer les choses.
Mais c'est ce que je dis, reconsidérer les choses, c'est exactement ça. Vraiment, se poser et puis essayer de s'ouvrir l'esprit pour ne pas être bloqué par nos préjugés, et essayer de penser vraiment créativement à une autre façon de nous relier au monde. Mmh. Voilà ce que je propose.
Et là, tu parlais, on parlait aussi des chasseurs-cueilleurs, mais là, on remonte à des années ancestrales, des milliers...
Des milliers, même pas 10 000 ans, d'ailleurs, parce que des chasseurs-cueilleurs, il y en a encore, pas beaucoup, mais il n'y a pas très longtemps, il y en avait encore. Mmh.
Mais tout ça pour dire que 10 000 ans qui paraissent extrêmement lents, et aujourd'hui, on voit que les choses se rapproche à une vitesse extraordinaire. La vitesse d'exécution de tout est devenue extrêmement intense.
C'est aussi pour ça, je pense qu'on a plus de choix, on a plus de possibilités. Je voudrais pas qu'on se méprenne non plus et qu'on dise « moi j'aime bien une partie du mode de vie des chasseurs-cueilleurs, ouais certes, mais j'aime bien aussi le monde dans lequel je vis avec toutes ses fonctionnalités, avec toutes ses stimulations, avec toute sa créativité, avec tout son confort aussi, il faut le dire, avec toutes les possibilités qui nous sont offertes, enfin du moins à nous qui avons les moyens de nous les offrir, parce que c'est pas tout le monde, il faut le dire, hein. Il faut l'avouer, il y a des injustices, c'est une réalité. » Mais j'aimerais bien justement pouvoir. Moi, je vis un équilibre entre les deux. Franchement, bien, très bien, quoi. Je veux dire, rien qu'en même en rentrant ici, je voyais ces petits chatons de saule là en décoration végétale dans le hall d'entrée. C'est merveilleux. J'étais en admiration devant ça. Tu vois, vraiment. Et c'est physique. J'ai touché. C'est doux. C'est soyeux. Enfin, je veux dire, l'émerveillement, il est absolument partout. D'ailleurs, mon livre précédent, ça s'appelait Émerveillement. émerveillez-vous au lien qui libère aussi, tu vois.
Ouais.
J'expliquais différentes façons dont s'émerveiller et que moi je vis au quotidien et que j'ai envie de partager. Parce que quand on s'émerveille au quotidien devant des choses aussi simples que ce qui nous est offert, je dirais, que ce qui pousse spontanément, bah, on change vraiment de façon de concevoir le monde.
Keiko, tu es japonaise, on l'a dit, hein, est-ce que c'est quelque chose aussi qui fait partie de votre culture au Japon, ce rapport justement à la nature, aux plantes, c'est différent finalement de ce qu'on vit nous, puisqu'on dit aussi que finalement ça nous rapproche, hein, cette capacité qu'on a de vivre dans ce vaste monde, quand on s'y intéresse et qu'on s'intéresse entre autres à la création de ce monde, les plantes sauvages.
Oui, je crois que oui, c'est le rapport avec la nature au Japon. C'est, je pense que c'est assez fort. Donc, même pour la cuisine, on peut pas faire juste la cuisine sans penser la saison. Donc, avec les plantes sauvages, c'est vraiment important parce que déjà sentir la saison, donc juste les plantes qui commencent à pousser, c'est juste trouver des plantes comme ça, c'est juste un ravi. Donc on cueille, juste, oui, on peut m'éveiller d'abord, mais on cueille et puis on mange, ça c'est bien pour la nutrition, mais avant ça, c'est juste, oui, prendre et voilà, sentir la saison, c'est vraiment quelque chose de joyeux. Donc,
et c'est quelque chose qui existe, qui fonctionne encore aujourd'hui, parce que c'est vrai que quand on regarde le Japon, alors c'est à la fois une société très traditionnaliste, mais extrêmement moderne aussi, ultra technologique. Oui. Comment est-ce qu'on arrive à finalement concilier aussi toutes ces étapes?
Je pense, oui, ça existe toujours, parce que, oui, oui. Si c'est la saison, on va souvent aller dans la nature et à la montagne, peuvent cueillir les plantes aussi, parce que surtout au printemps, maintenant, c'est vraiment la saison, donc on va aller cueillir déjà, oui, petites pousses de fleurs, de pétadites, ça c'est vraiment, ça s'appelle Fukinoto, ça c'est vraiment, tout le monde aime, tout le monde, donc
il y a
voilà,
aspect,
même les citadins, oui, parfois on peut même acheter au marché, ou même au supermarché, les plantes sauvages, voilà.
Il y a même la fête des plantes sauvages le 7 janvier.
Ah oui, le 7 janvier.
7 janvier, ouais.
C'est passé.
C'est passé. Mais tout le monde va faire sa petite bouillie de riz aux sept herbes. Et tout le monde le fait, quoi. Vraiment, c'est
une partie de culture. Donc,
ouais. Donc on le voit, effectivement, ce sont aussi des aspects culturels au fil du temps et de l'évolution.
Alors, la religion Shinto est basée sur la relation à la nature, justement.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est toujours très vivant. 98% des Japonais sont Shinto. Bouddhistes en même temps d'ailleurs, parce que pour assurer les arrières après la mort, on ne sait pas trop, mais ça aide. Mais c'est vrai, et c'est vraiment quelque chose qui est vécu, et ce que je trouve bien, ça équilibre vraiment la mentalité des gens, quoi, enfin la psychologie des gens, je dirais. Ça c'est certain, et ça se retrouve de façon subtile dans tous les aspects de la vie. Chaque maison, par exemple, a son tokonoma, son petit coin,
petit jardin.
C'est à l'intérieur de la maison. C'est à l'intérieur de la maison, vraiment à l'intérieur. Ça s'appelle tokonoma, c'est un coin dans une pièce particulière qui est liée, qui reflète la nature à l'extérieur en fonction de la saison.
Mmh.
Tu vois ? C'est des choses dont nous, on peut s'inspirer. Le Japon inspire beaucoup la culture occidentale, et je pense vraiment plutôt dans le bon sens, de ce point de vue-là. Donc j'espère qu'un de ces jours, on pourra percevoir dans notre appréciation du Japon, l'importance de la nature et des plantes en particulier, et l'émuler un petit peu de notre côté à nous, puisqu'on peut le faire, il n'y a pas de raison.
Absolument. On revient sur les choses plus concrètes, hein, cette fois-ci. C'est vrai, François, tu es ethnobotaniste, hein, tu as créé le Collège pratique d'ethnobotanique depuis déjà un certain temps, hein, je ne sais pas
15,
depuis combien de temps, 15 ans.
15 ans, 16 ans.
Exactement, avec entre autres maintenant aussi une nouvelle formation en ligne qui démarre sur 3 ans. Donc il y a aussi cette envie de transmettre, bien sûr.
Alors, non seulement de transmettre, mais de transmettre à de plus en plus de personnes.
Mmh.
Je vais continuer à donner des cours en présentiel, hein, mais j'ai vraiment envie que de plus en plus de personnes puissent avoir accès à cette connaissance. Et donc c'est vrai, j'ai mis en ligne une formation sur 3 ans. C'est un gros truc, hein.
Oui.
C'est un gros truc. Alors il y a des tas d'exercices aussi qui font qu'on est incité à sortir, à aller explorer soi-même sur le terrain. Les élèves sont en lien les uns avec les autres. Et puis moi je vais continuer à donner des cours aussi comme ça. C'est vraiment quelque chose qui permet d'aller en profondeur, d'explorer le monde des plantes, d'explorer le monde de l'humain, d'explorer les rapports entre le monde des plantes et de l'humain. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, d'apprendre à mieux se connaître soi-même et à de mieux comprendre le monde et à transmettre de nouveau. Parce que la seule façon de pouvoir avoir un impact, c'est de transmettre au plus grand nombre de personnes qui, à leur tour, vont transmettre.
Et c'est la connaissance.
Parce que ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien, non, d'un chien. C'est vrai.
Exactement. Et est-ce que tu as le sentiment, Keiko aussi, hein, vous côtoyez pas mal de gens, vous bougez beaucoup, etc., que les choses évoluent de ce point de vue-là? C'est-à-dire qu'il y a un intérêt accru aussi pour ce retour aussi à des sensations premières aussi. Hein, plantes sauvages, c'est ça, c'est un état naturel premier, quelque part.
C'est vrai. Tu as raison de dire ça comme ça. Alors, moi, je trouve que la demande est de plus en plus importante, elle est même carrément énorme, et que justement, il faut être capable de l'encadrer bien comme il faut. Parce qu'il y a trop de flou, je l'ai dit tout à l'heure, je trouve qu'il y a trop de flou là-dedans. Il faut vraiment que les choses soient faites bien comme il faut, pour des raisons de sécurité. Il y a eu, en France, il y a eu des gens qui se sont empoisonnés. Le Sénat s'est emparé de la question. Ils ont voulu édicter une loi. Ils y connaissaient strictement rien. Donc ça n'a pas marché. Donc ils ont mis un organisme ministériel, interministériel, sur l'affaire. Ils m'ont contacté pour me demander ce que j'en pensais et voir comment on peut faire pour que les choses, au moins que les gens ne s'empoisonnent pas, quoi.
Ouais.
Ça, c'est quand même la première des choses.
Quand même.
Voilà. Donc notre formation, elle est là pour apprendre aux gens à, cueillir sans qu'il y ait de danger, et à transmettre ensuite aux autres personnes leurs connaissances. Et on va développer de nouvelles formations, si les gens me suivent sur mon site ou d'autres.
Alors, le site,
c'est... Mon site, c'est www.couplan.com. C'est Couplan, simplement, on tape Couplan, C-O-U-P-L-A-N, ouais. Ouais. Puis on a des projets, là, en ce moment, on a plein de projets, on bouillonne. Ah ouais, on va élargir beaucoup la chose, parce que, comme je l'ai dit, le temps presse. Mm-hmm. Voilà, le temps presse pour moi.
Oui, bon, ça, c'est fou de chose.
Chaque jour, j'en prends un de plus, et maintenant, ça commence à compter, c'est vrai. Et je crois que, je dirais, pour l'humanité en général, hein, histoire de réchauffement climatique, faudrait comprendre un petit peu... ça existe, c'est vrai, c'est une réalité, mais pas forcément en faire un drame, mais comprendre et voir ce qu'on peut faire concrètement pour accompagner ces changements dont on est partiellement responsable. Mais d'autre part, il y a de l'éco-anxiété, d'une façon générale.
Beaucoup.
Et ça, c'est dommage. Encore une fois, c'est juste, c'est la pensée paradoxale. Là. C'est-à-dire, c'est vrai, mais en même temps, c'est pas vrai. Et il faut arriver à dénouer les chevaux, si je puis dire, et à se sentir bien dans sa peau, parce que c'est la seule façon dont on peut agir de façon efficace, libre, de façon à ce que ça marche véritablement. C'est pas... La peur est toujours mauvaise conseillère. Toujours. Voilà. Donc il faut débugger cette espèce de peur de la nature, cette espèce de peur globale. Et on est là pour ça, je dirais.
Mmh. Voilà. Donc il y a du boulot encore.
Donc il y a du boulot.
Mais il y a de l'espoir.
Voilà. Donc concrètement, moi je vais proposer un atelier chez moi. Là, c'est la première fois que je le fais depuis des années, mais j'ai envie, c'est pour, je sais pas comment dire, marquer le coup, pour essayer de faire avancer les choses au niveau local, quoi, aussi. Tu vois, c'est important, j'habite ici, je vis ici, c'est important pour moi de rencontrer des gens. Donc c'est...
Au mois de juin
Au mois de juin, c'est 22-23.
Ouais,
je donne une conférence à Lausanne, d'ailleurs. Je donne une conférence à Lausanne, à Fondation Hommes et Nature, le 21 juin.
Oui.
Et le 22 et le 23, je donne des ateliers à Massonance.
À Massonance.
Ouais, voilà, il y a tout sur mon site, c'est bien. J'espère rencontrer du monde parce que j'adore partager.
Ouais. Vous faisiez aussi, hein, par le passé, des ateliers de ce type-là, des balades aussi, toujours dans cette région, hein, de Massonance. Enfin, pas. pas que dans cette région, puisque vous déplaciez aussi en France.
Jusqu'au Japon.
Jusqu'au Japon même, ouais, effectivement.
On a donné des cours ensemble au Japon. Hein.
Et Keiko donnait aussi des cours de cuisine, oui. Je crois. Hein, c'est oui. Bien ça, toujours. Enfin, on allait à la connaissance, à la rencontre des plantes. Mm-hmm. Et par la suite, on apprenait aussi à les cuisiner. Mm-hmm. Hein, certaines plantes qui sont très acides ou ne sont pas forcément extrêmement bonnes, qu'on apprend aussi à rendre beaucoup plus douces. J'ai grimacé en plus.
Ouais.
Ah, j'ai pas fait exprès. Non, non, mais on apprend aussi à magnifier les plantes, enfin, à les rendre beaucoup plus agréables au palais, hein, s'entend.
Au palais et à la santé aussi.
Et à la santé, oui.
La cuisson permet aussi d'éliminer un certain nombre d'éléments.
C'est vrai, ça, c'est, on parlait des toxines, on va dire, ou de l'aspect toxique de certaines plantes.
Tout
mais
à fait.
Ça, les Japonais ont l'habitude aussi hein, de travailler avec des produits qui, à la base, peuvent s'avérer dangereux, mais en les cuisinant, absolument. D'une certaine manière, oui. on les rend sublimes, en l'occurrence,
oui.
Et plus du tout dangereux, au contraire.
Oui, oui, oui. Même, par exemple, comme Fougère-aigle, ça s'appelle wasabi en japonais. Ça, on consomme beaucoup au printemps. C'est vraiment le goût de printemps aussi. Et là, mais quand même, il y a la toxicité. Donc, on élimine avec la cendre de bois d'abord et puis bien préparé. Après, c'est très bon pour cuisiner. C'est juste manger avec le bouillon japonais. Quelque chose comme ça.
Donc, il vaut mieux se renseigner au préalable.
Ah bah purée, non, mais regardez,
et parler avec Keiko.
Mais non, tous les Japonais le savent, ça, effectivement.
Oui, oui, oui.
Et d'ailleurs, petite anecdote, encore une fois, ça sera pas retenu contre moi, j'espère, mais j'avais entendu dire qu'on mangeait des crosses de, les crosses de fougère, là, petites pousses de fougère. Alors, il y a longtemps de ça, il y a 60 ans de ça, à l'aise, et j'avais fait l'expérience. Et c'était juste absolument dégueulasse. C'était juste infâme parce que je ne savais pas qu'il fallait les préparer comme ça, avec la cendre de bois et tout ce genre de trucs. Donc au début, c'était pas bon. Après, j'avais fait cuire, c'était devenu tout gluant. Non, il faut savoir. Il y a quand même un savoir-faire qui est important,
absolument.
Tu vois.
Ouais.
Ça, c'est sûr.
Exact. Alors, le savoir-faire, vous l'avez à travers tous les ouvrages que tu as pu écrire, hein, on le disait 123,
ouais,
mais le dernier, ben oui, ça rend service. Le dernier, c'est L'art de la cueillette, les bienfaits nutritionnels des plantes sauvages, aux éditions Les Liens qui libèrent, de François Coupland, bien sûr. Un autre livre est en préparation, plus politique cette fois-ci, on en parlera peut-être, qui sait, lorsque le livre sera sorti. Les dates importantes, c'est les 22 et 23 juin, c'est deux jours, finalement, d'ateliers aussi, découverte
oui, c'est ça.
Visite de ces plantes
rencontre
sauvages.
Rencontre des plantes, cueillette, cuisine, dégustation, partage, bonheur.
Ça c'est beau, hein. Ça, c'est une magnifique conclusion. Voilà, je crois que j'ai plus ou moins tout dit, hein, si ce n'est que vous trouvez bien sûr ce livre un peu partout en bibliothèque. Le site c'est couplant.com,
oui.
Où là on a tous les renseignements, y compris sur la formation en ligne dont tu parlais rapidement, une formation qui se tient sur 3 ans, qui est quand même une grosse formation. Exactement.
Ouais, ouais.
Et voilà.
C'est bien.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va cueillir quelques plantes?
Hein? Oui, à midi, j'ai prévu de faire une omelette au sérac avec une sauce à l'égopode.
Waouh!
Wow. Ouais, ouais, ouais.
Bon,
ça sonne planifié.
Plutôt bien. Hein, ça sonne plutôt bien.
On en a partout, de l'égopode qui envahit. La plupart des jardiniers s'arrachent les cheveux. Moi, pas, la preuve, j'en ai pas mal. Et donc voilà, ça va être notre cadeau du jour.
Parfait. Merci Keiko, merci d'être venu.
Merci
François Coupland. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne journée à toutes et à tous.
Radio FR présente les bonnes tables de la région. L'hôtel Le Tonnelier dans le centre historique de Bulle vous fera voyager dans l'univers du tonnelier avec une brasserie belle époque, chaleureuse et authentique, servant des produits locaux et de saison. Venez découvrir ses mets bistronomiques et l'après-midi, régalez-vous avec sa vitrine de desserts maison. Le Tonnelier à Bulle vous enchantera. Une brise de saveur printanière souffle sur la croix blanche à Pauzieux. Des plats savoureux, concoctés avec amour, mettant en valeur les produits du terroir, vous attendent. Le printemps se déguste à chaque instant à la croix blanche à Pauzieux. Réservez votre table dès à présent.